Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. C'est la mesure que les membres de la Convention citoyenne pour le climat espéraient. Emmanuel Macron annonce ce soir un référendum pour inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. À 10 jours de Noël, Le Havre et Charleville-Mézières ont lancé aujourd'hui des campagnes de dépistage massif, tests gratuits, rapides, mais pour l'heure, peu de volontaires, nous dira notre envoyé spécial. Nous irons également aux États-Unis où les premières doses du vaccin contre le Covid ont été administrées cet après-midi en direct à la télévision américaine. Rouvrir ou mourir, le nouvel appel à l'aide des sacrifiés, restaurateurs, cafetiers et patrons de discothèques supplient le gouvernement de les laisser travailler. Dans ce journal également, Carlos Ghosn dans le viseur du fisc français, la disparition de Gérard Rouillet, entraîneur couronné de succès, sélectionneur des Bleus traumatisé, et puis des Bleus du rugby prévenus, ils feront face aux All Blacks dès les phases de poule du prochain mondial, ce sera dans 3 ans en France. Le temps de demain, encore très humide, mais des éclaircies sont attendues dans l'ouest, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,37% à 5 527 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes autour de cette question. Comment éviter que les jeunes soient la génération sacrifiée? Le cercle des économistes a des propositions en ce sens. Son président Jean-Hervé Lorenzi est ce soir l'invité d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il leur avait promis en juin de reprendre sans filtre 146 de leurs 149 propositions. Depuis, les relations entre les membres de la Convention citoyenne pour le climat et Emmanuel Macron s'étaient dégradées. Elles se sont subitement réchauffées ce soir après 4 heures d'échange et cette annonce du chef de l'État, il y aura un référendum pour modifier la Constitution, Jean-Rémy Bodo.
Oui Julien, et cette annonce elle a été faite à la toute fin de ces 4 heures d'échange autour d'une simple phrase. Écoutez.
Sur l'article 1er de la Constitution, elle sera transmise en même temps que la loi qui porte votre nom au Conseil des ministres. Ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum.
Alors vous entendez, d'abord la salle reste silencieuse, interloquée avant d'applaudir. Il faut dire que ça faisait plusieurs mois, depuis juin, que les membres de la Convention réclamaient que l'article 1er de la Constitution intègre la mention suivante, je cite, « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique ». Techniquement, le président l'a expliqué, l'Assemblée puis le Sénat vont devoir voter cette réforme avant ce référendum. On veut que cette question soit débattue dans tous les foyers, expliquait l'un des citoyens. Ce sera chose faite, sauf si le Sénat s'y oppose. On sait que le Sénat refuse régulièrement l'idée de révision de la Constitution. À l'Élysée ce soir, l'idée d'un bras de fer avec le Sénat fait d'ailleurs sourire. Vous pensez vraiment qu'ils vont refuser une demande unanime des Français sur l'écologie, s'amuse un conseiller. Chacun prendra ses responsabilités, me confie un ministre. Ce soir, Emmanuel Macron réussit donc un coup double politique, satisfaire les membres de la Convention citoyenne et repasser la responsabilité de ce référendum aux sénateurs.
Merci beaucoup Jean-Rémy Bodo du service politique d'Europe 1. Claire Burlet est l'une des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, une citoyenne satisfaite ce soir de l'annonce du président.
Référendum qui avait été demandé effectivement par la Convention citoyenne par rapport à la Constitution et il l'a accepté sans condition, c'est-à-dire qu'il reprend exactement nos termes. On avait mis garantir, il a repris ce terme. Je pense qu'on est tous satisfaits de cette déclaration. Moi je suis arrivée avec une colère, avec des déceptions par rapport à ce qui n'était pas repris. J'avais cette sensation de détricotage. Là je repars avec des réponses. Alors les réponses, il faut que je les analyse, que j'y réfléchisse, mais en tout cas ça a été des réponses entendables, avec des arguments que je n'avais pas imaginés, donc c'est du plus. Après, je resterai vigilante.
Une membre de la Convention citoyenne pour le climat au micro européen de Claudia Bertram. Dans l'actualité également ce soir, ces campagnes de dépistage massif contre le Covid qui ont débuté ce matin au Havre et cet après-midi à Charleville-Mézières. Jusqu'à vendredi, les habitants qui le souhaitent peuvent se faire dépister gratuitement. L'objectif est double, mieux comprendre comment le coronavirus se transmet dans la population, mais également mieux isoler les éventuels cas positifs. Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes au Havre pour Europe 1. Est-ce que les habitants adhèrent? Est-ce qu'ils sont venus nombreux à se faire tester?
Eh bien, on ne peut pas réellement parler de vague hein, en ce qui concerne la fréquentation. Il n'y a pas de file d'attente devant les centres de dépistage éphémères installés au Havre et dans l'agglomération. Pourtant, il est possible de faire un millier de tests par jour dans chacun de ces sites. Et à la sortie, Jean-Jacques, un Havrais de 67 ans, en appelle à l'esprit citoyen des habitants.
Test négatif et content d'une part d'avoir fait le test et en plus de savoir que je suis négatif. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières. Et pour moi, c'est un geste citoyen comme d'aller voter. Allez-y, allez vous faire tester avant les fêtes, ça me semble important.
Alors comme lui, ce sont surtout des retraités qui sont venus se faire dépister pour ce premier jour. Mais cela n'inquiète pas Léo Janin de la protection civile.
Sur la pause méridienne, dans certains quartiers, on a plus des personnes qui sont en pause repas au travail. Ce soir, plus de familles, le mercredi également. Voilà, chacun va trouver un petit peu un créneau qui lui correspond pour être accueilli.
Et on le rappelle, ce sont des tests antigéniques qui sont principalement pratiqués. Un écouvillon dans le nez et les résultats en 20 minutes. C'est gratuit, pas besoin de rendez-vous ni d'ordonnance. Cette opération de grande ampleur va durer jusqu'à vendredi.
Jean-Gabriel Bourgeois, au Havre pour Europe 1. À 6000 km de là, les États-Unis ont débuté aujourd'hui leur campagne de vaccination contre le Covid. C'est un défi logistique immense vu la taille du pays et les contraintes imposées par le vaccin Pfizer qui doit être conservé à moins 70 degrés. 3 millions de doses au total vont être administrées dans les jours qui viennent. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant à New York où c'est une soignante qui est devenue tout à l'heure la toute première personne aux États-Unis à avoir été vaccinée.
Oui, il était 9h22 sur la côte Est. Des applaudissements pour une première vaccination dans un hôpital du Queens à New York, quartier profondément meurtri par la première vague de l'épidémie au printemps. Et la première à recevoir le vaccin s'appelle Sandra Lindsay. C'est une infirmière afro-américaine. Elle travaille en soins intensifs. Je n'ai senti aucune différence par rapport à n'importe quel autre vaccin, dit-elle. Je me sens pleine d'espoir, soulagée. La guérison arrive, la lumière est là au bout du tunnel. J'encourage tout le monde à se faire vacciner. Cette séquence de vaccination, elle est à l'image de l'année 2020, diffusée sur la plateforme Zoom, avec la présence de l'autre côté de l'écran du gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Merci aux docteurs, merci aux infirmières, merci pour tout ce que vous avez fait. Je crois que le mot « héros » est totalement approprié. Et ce vaccin, je crois que c'est l'arme qui nous fera gagner la guerre. Les vaccinations vont s'enchaîner aujourd'hui à travers les États-Unis. Une cérémonie de lancement est prévue cet après-midi dans un hôpital de Washington. Tous les États attendent leur première dose qui ont quitté les entrepôts de Pfizer dimanche matin. Et le temps presse car les États-Unis vont passer dans la journée le cap des 300 000 morts du Covid-19.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, où les grands électeurs sont en train de confirmer leur vote et donc d'entériner la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. Une formalité en temps normal, perturbée cette fois par le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite. Retour en France, à Paris, où ils étaient plusieurs milliers cet après-midi à crier leur détresse. Restaurateurs, cafetiers, hôteliers et propriétaires de boîtes de nuit, une nouvelle fois mobilisés sous ce mot d'ordre « Laissez-nous travailler ». Leurs établissements ne rouvriront pas, au mieux avant le 20 janvier, une date à laquelle ne croient plus ces patrons désabusés qui dénoncent le deux poids deux mesures du gouvernement.
On est d'accord, on est dans une crise sanitaire, c'est très dangereux, on a bien compris l'enjeu aussi de du confinement, de la fermeture. Mais dans ces cas-là, pourquoi réouvrir dans certains endroits où les gens vont s'agglutiner ? Ça n'y fallait faire de courses. Des queues énormes dans les magasins, les gens sont agglutinés, il n'y a pas de gestes barrières. Et nous, on reste encore sur le carreau alors qu'on met des protocoles en place depuis le départ. Pourquoi on nous oublie encore une fois ? On veut juste travailler.
Qu'ils aient le courage de nous dire vraiment les raisons qui font que nous sommes fermés. À Marseille, je ne prends que Marseille, dans la nuit de samedi, 500 personnes faisaient la fête. Mais il y en a plein des fêtes comme ça. À force de fermer les discothèques où c'est réglementé, où les gens font attention, où il y a des gestes barrières, on préfère laisser faire des fêtes à tort et à travers. Alors de temps en temps, sur 10 fêtes, on en arrête une. Ça fait de la pub.
Célia, venue de Mérignac en Gironde, et Bernard, venue de la région PACA, réaction recueillie pour Europe 1 par Angèle Châtelier. Le monde du spectacle se prépare lui aussi à crier sa colère contre la décision du gouvernement de prolonger la fermeture des lieux culturels. Des rassemblements se tiendront demain dans plusieurs villes de France. Les attestations de sortie vivent leurs dernières heures. À partir de minuit, le déconfinement entrera en vigueur, remplacé par un couvre-feu de 20h à 6h. Il sera donc possible de sortir faire ses courses ou retrouver des proches sans justificatif sur cette plage horaire. Autant de sujets sur lesquels Jean Castex va s'expliquer demain sur notre antenne. Le Premier ministre sera à 8h15 l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1. Le chef du gouvernement répondra aux questions de Sonia Mabrouk.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Carlos Ghosn est-il un roi de l'évasion ? Après s'être soustrait de manière rocambolesque, on s'en souvient, à la justice japonaise, l'ex-patron de Renault-Nissan est cette fois soupçonné par le fisc français d'évasion fiscale. En cause, son déménagement aux Pays-Bas en 2012, une enquête est en cours et elle pourrait aboutir à un redressement fiscal d'envergure, Aurélien Fleureau.
Oui, et ce qui est sûr, c'est que les contrôles ne sont pas terminés. La procédure a démarré en juillet 2019 et selon les informations de Libération, ce serait dans un premier temps la somme de 13 millions d'euros de biens qui ferait l'objet d'une saisie conservatoire de la part du fisc français, qui ne serait donc pas convaincu par la légitimité du changement de résidence fiscale effectué en 2012 par Carlos Ghosn de la France vers les Pays-Bas. Il est alors à la tête de l'alliance Renault-Nissan, dont le siège se situe à Amsterdam, volonté de neutralité entre Paris et Tokyo, et puis choix avantageux sur le plan fiscal effectué par de nombreuses multinationales. Dans l'entourage de Carlos Ghosn, qui vit désormais au Liban depuis son évasion du Japon il y a un an, on nous explique ne pas comprendre à quoi correspond précisément cette somme de 13 millions d'euros et surtout, on fait savoir que ce changement de résidence fiscale a été fait en toute transparence envers les services des impôts, que depuis 2012, l'administration française n'a pas répondu à sa demande de changement de domiciliation, mais était bien au courant et qu'il a fallu 7 ans et l'arrestation de Carlos Ghosn avant de lancer ses investigations. Le fisc va donc devoir statuer si Carlos Ghosn aurait dû être considéré comme un résident fiscal français entre 2012 et 2018.
Merci Aurélien Fleureau. Visé par une information judiciaire pour viol, Gérald Darmanin a été entendu ce matin par les juges à sa demande, précisent ses avocats. Le ministre de l'Intérieur a été placé sous le statut de témoin assisté. Une ancienne militante UMP accuse Gérald Darmanin de viol, des faits qui dateraient de 2009. J'ai rien à voir dans cette histoire, voilà ce qu'a clamé aujourd'hui pour la dernière fois Aliriza Polat, le principal accusé au procès des attentats de janvier 2015. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise contre ce franco-turc pour complicité des crimes commis par les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly. Le délibéré sera rendu mercredi à 16h. Il était passé des bancs de l'école à ceux des plus grands clubs d'Europe. Gérard Houllier est mort la nuit dernière à l'âge de 73 ans. Ancien instit, le professeur, comme il était surnommé, fut au PSG, à Lyon ou encore à Liverpool, un entraîneur comblé, mais aussi un sélectionneur des Bleus traumatisé, Axel May.
Oui, 12 matchs seulement comme sélectionneur et une défaite qui a marqué toute une génération par un triste soir de novembre 93 lorsque le Bulgare Kostadinov crucifie dans les ultimes instants de la rencontre l'équipe de France de Gérard Houllier sous les yeux du regretté lui aussi Eugène Saccomanno.
Ça y est, c'est fini, la France est éliminée, la France n'ira pas à la Coupe du Monde, c'est une terrible, terrible déception.
Mais la carrière de Gérard Houllier ne s'arrête pas à cette déception en club. Il a gagné les championnats de France avec le PSG et Lyon. Et puis, il y a eu cette année 2001 à Liverpool où il remporte 5 trophées. Écoutez le témoignage de l'ancien entraîneur d'Auxerre, Giroud, joint par Corinne Boulou.
Nous avons fait notre carrière à peu près simultanément. Il l'avait débuté brillamment par un match avec Neuilly-Mines en Coupe de France à Auxerre, où j'avais remarqué qu'il était brillant, on avait commencé de sympathiser et on n'a jamais cessé cette amitié. On a un second point commun, c'est que quand il était à Liverpool et qu'il a fait un malaise à la mi-temps d'un match, je l'ai copié 15 jours après et avec une opération presque aussi grave.
Son cœur qu'il savait fragile, Gérard Houllier sortait juste d'une nouvelle hospitalisation.
Merci Axel May. Deux nouvelles importantes pour le PSG, club que Gérard Houllier a amené à son premier titre de champion de France. Les Parisiens affronteront leur pire ennemi en 8e de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone, 4 ans après la fameuse remontada qui avait crucifié le club de la capitale. Et puis Neymar, qui entre-temps a changé de camp, va mieux, sorti sur civière hier soir après le tacle d'un Lyonnais, les examens de la cheville du Brésilien sont rassurants. Gros tirage également pour le 15 de France, tirage noir même, on pourrait-on dire, puisque les Bleus affronteront les All Blacks dès les phases de poule du Mondial 2023, Simon Rubin.
Et voilà, c'est l'équipe qu'il fallait éviter à tout prix. Eh bien, les Bleus auront donc droit à leur confrontation face aux All Blacks, la Nouvelle-Zélande. Alors, au moment de l'annonce de ce tirage au sort, ça a plutôt fait rire Bernard Laporte, le patron de la FFR.
Bon, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'une des meilleures équipes du monde, on le sait, on n'apprend rien. Le seul avantage que tu peux te dire, c'est effectivement que tu peux les prendre qu'en finale après. C'est la seule consolation. Mais bon, si tu veux être champion du monde, il faut battre tout le monde. Moi, je crois que je parle plutôt de ce principe-là. Et puis, quand on regarde, quand on analyse tous les champions du monde, certains étaient dans des poules faciles, d'autres étaient dans des poules où ils ont bataillé, comme on dit, en poules, et ils l'ont été quand même à la sortie. Donc, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est que si tu veux être champion du monde, il faut que tu battes tout le monde.
Alors toute la question est maintenant de savoir si la France affrontera la Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture. Et ça, ce sera décidé dans les prochains jours. C'est l'organisation et le staff des Bleus qui décideront conjointement de cette première affiche. Alors faut-il jouer la Nouvelle-Zélande d'entrée pour être débarrassé ou bien attendre un peu pour tenir le public en haleine? C'est vraiment un choix sportif et marketing. Pour le reste du programme, les Bleus auront affaire à l'Italie et probablement à la Namibie et aux États-Unis ou au Canada. Ça reste à définir et c'est nettement plus abordable.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. On passe à la météo. Anissa Haddadi, le temps de demain sera très humide.
Oui, alors pour faire simple, demain, Julien, il n'y a que demain matin sur le quart nord-ouest et la façade atlantique que ces régions seront au sec. Partout ailleurs, le temps est pluvieux. Alors des pluies qui seront même plus intenses sur les Cévennes, avec dans l'après-midi un temps qui tourne à l'orage sur les reliefs cévenols. Au fil des heures, cette perturbation va se décaler doucement vers l'est et du coup, le soleil revient sur toute la moitié ouest du pays. Un après-midi où vous allez alterner entre nuages, éclaircies et quelques petites averses. Dans les Alpes, il neige à partir de 1800 mètres d'altitude et toujours un vent du sud sensible sur les côtes de la Manche. La journée, alors elle sera humide, certes, mais elle va se dérouler dans une agréable douceur avec 2 à 12 degrés d'est en ouest demain matin. Nous aurons 2 à Strasbourg, 7 à Bastia, 8 à Nice, 9 à Paris et 12 pour Marseille. Et puis au meilleur de la journée, c'est stationnaire quasiment comme aujourd'hui, 9 à 17 degrés, 9 à Belfort, 12 à Paris et Rouen, 15 à Biarritz et 17 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse, top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview écho autour de cette question, comment éviter que les jeunes soient la génération sacrifiée? Le cercle des économistes a des propositions en ce sens, son président Jean-Hervé Lorenzi est ce soir l'invité d'Emmanuel Duteil. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine dans le calme à l'approche de la trêve des confiseurs.
Oui, oui, il ne se passe plus grand-chose. Ça sent un petit peu les vacances déjà à Wall Street. Et il y a toujours évidemment ce soutien budgétaire que l'on attend, qui n'arrive pas, qui tarde à être validé par le Congrès américain. Dans cette attente, ça tourne un petit peu en rond. Le Dow Jones cède 0,6%, moins 0,62%. Le Dow Jones à 29 860 points. Le Nasdaq gagne quand même 0,5%, 12 440 points. Le secteur pharmaceutique repère du terrain. Il y a des prises de bénéfices après son envolée récente. Pfizer, moins 4,6%. Alors que le vaccin a été validé, le vaccin anti-Covid a été validé aux États-Unis vendredi, donc Pfizer redescend de près de 5%. On a aussi Moderna qui perd 1,8%, AstraZeneca moins 5,6%. Donc une pause du côté du secteur de la pharmacie et du médical. Tesla en revanche grimpe encore de 4,5%. Ça reste la vedette à Wall Street, $637.50. Le titre Tesla va faire son entrée dans les indices SP500 et SP100. C'est beaucoup plus stable sur les autres valeurs de technologie. Apple, inchangé, $122. Facebook, inchangé aussi. Amazon grappille quand même 1,5%. Le pétrole tourne autour des $50, le Brent. Exxon redescend quand même de 3,5% à $42.20. Et puis l'euro reste ferme. L'euro est à 1,2140 face au dollar.
La Bourse de Paris a terminé la séance en légère hausse dans un marché calme là aussi.
Oui, oui, là aussi, on sent bien que cette fameuse trêve des confiseurs arrive à grands pas. Le CAC 40 a regagné quand même 0,37%. Il avait perdu 2% la semaine dernière. 5527 points plus 0,37% donc sur le CAC 40 avec un secteur automobile qui est un petit peu remonté. Valeo plus 3%, Faurecia plus 2,5%, Renault plus 1,8% et Peugeot plus 1,6%. Les valeurs bancaires aussi reprennent un peu de hauteur en espérant un accord de dernière minute sur le Brexit. On a la Société Générale plus 1,8%, BNP Paribas plus 2,5% et puis Natixis reprend 1% ce soir.
Exception du jour, le titre ST Micro qui a encore perdu du terrain.
Oui, c'est la déception de nouveau sur STM, moins 0,5%, 28,95 €. La semaine dernière, le titre avait déjà chuté de plus de 13% après la révision surprise de certains de ses objectifs financiers en raison des tensions persistantes, en particulier entre les États-Unis et la Chine, avec un gros marché, bien sûr, pour STMicro, un fabricant de puces électroniques. Donc, c'est toujours la déprime sur le titre qui revient en arrière, hein, de 0,5% à 28,95 €. Ce soir, STM en baisse. Les autres places financières sont quand même un petit peu mieux orientées, avec des rebonds sur le DAX à Francfort, plus 0,8, à Bruxelles, plus 0,6. Londres a perdu 0,2%, toujours dans l'attente de ce fameux accord sur le Brexit. Et puis le CAC 40, donc en hausse minime, mais en hausse quand même de 0,37%, 5 527 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à demain Didier. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-Hervé Lorenzi.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Cercle des économies. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous venez de formuler 5 propositions très concrètes pour éviter que les jeunes soient la génération sacrifiée. Aujourd'hui, on le sait qu'avec cette crise du Covid, c'est très 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 compliqué pour les jeunes. Il faut donc, selon vous, agir vite et fort parce que le constat est aujourd'hui sans appel.
Oui, oui, il faut d'abord, comme vous venez de le dire, évoquer l'urgence, c'est-à-dire que ce soit la pauvreté, les difficultés sur le marché du travail, les problèmes de formation, tout ça est extrêmement compliqué et en fait extrêmement dangereux pour cette jeunesse qui est quand même l'avenir du pays. Deuxième aspect, le gouvernement est plein de bonnes intentions. Il a mis sur la table ses 7 milliards d'euros, mais c'est vrai que c'est complexe, difficile, c'est en réalité assez, j'allais dire, inaccessible pour toute une partie de la population des jeunes, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup insisté.
Alors, vous avez beaucoup insisté, vous y êtes intéressé, et ce qui est surtout très intéressant, c'est que vous formulez 5 propositions extrêmement concrètes. La première, simplifier et clarifier les conditions d'accès aux dispositifs d'accompagnement et toucher comme ça tous les publics jeunes sans exception. J'ai envie de dire, c'est concret, mais c'est quand même la moindre des choses.
Oui, mais c'est pas le cas. Vous vous souvenez que pour le RSA, il y avait le tiers de la population qui n'avait pas le chercher parce que c'était trop compliqué. Il y a un dispositif qui est très bien, qui s'appelle Garantie Jeune, mais il est très compliqué. Il est totalement, j'allais dire, contraint. Il faut avoir plein de conditions et il faut évidemment élargir à toute allure. C'est ce que le gouvernement a très bien fait pour les actifs depuis 6 mois. Donc il n'a qu'à le faire la même chose pour les jeunes. Et on fait une Garantie Jeune qui est une garantie, j'allais dire, très 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 généralisé, très facile d'accès, à condition évidemment que le jeune s'engage à chercher un travail ou à suivre une formation qualifiante.
Et pour tous ceux qui justement n'ont pas de qualification aujourd'hui, vous dites hein, il faut multiplier le nombre d'écoles de la deuxième chance, il faut revaloriser la rémunération du service civique, donc il faut relancer toutes ces pistes.
Ces pistes, un exemple aussi, vous avez une centaine d'écoles de la deuxième chance. C'est une institution qui est très très bien, c'est super. Ça permet à des jeunes qui étaient totalement désocialisés de revenir dans la société, mais avec des méthodes qui sont évidemment très adaptées à ces jeunes. Même chose pour le service civique, mais vous avez une centaine d'écoles de la deuxième chance, il en faut peut-être 5 000. Il faut, vous voyez, c'est l'ordre de grandeur qui n'est pas du tout. Le service civique, c'est très bien, le Premier ministre en a parlé, mais il faut évidemment être plus attirant, donc il faut les payer mieux, peut-être 700, 800 euros. Mais là aussi, il y a du bon sens à avoir.
Autre mesure justement de bon sens, vous parlez de bon sens, mettre en place d'urgence les formations qualifiantes en spécifiant les secteurs concernés, c'est-à-dire mettre des formations là où on a des besoins, et on pense notamment au numérique.
Alors là, c'est peut-être là où je suis le plus critique. Le Premier ministre a annoncé, il y a déjà 3 ou 4 mois, 200 000 formations qualifiantes. C'est bien, c'est super, il en faudrait peut-être un peu plus, mais c'est bien. Mais pour le moment, personne ne sait comment ça va se passer, où ça va se passer, qui va donner les cours, quels sont les secteurs. Évidemment, vous évoquez le numérique, mais ce sont des secteurs qui sont porteurs d'avenir. Personne ne sait comment ça va se passer. Et je propose aujourd'hui que dans 3 semaines, le gouvernement nous dise clairement ce qu'il envisage de faire dans ce domaine-là.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous insistez sur le fait que pour resserrer les liens intergénérationnels, il vous semble important d'associer les jeunes à l'immense campagne de vaccination. Pourtant, ils vont être un peu les derniers en la matière, puisqu'on va d'abord commencer par les profils les plus sensibles.
Oui, mais l'idée qui est notre idée, qui est une idée plus, j'allais dire, symbolique qu'autre chose, mais importante, c'est que cette affaire de vaccination, ces millions de vaccinations, ça va mobiliser le pays pendant des mois avec la logistique, avec des tas de problèmes administratifs, des tas de choses très compliquées. Et pourquoi ne pas demander aux jeunes d'être, j'allais dire, pas tous les jeunes, mais pas mal de jeunes, d'être associés finalement à une démarche qui va consister à aller organiser, pas donner le vaccin, mais organiser la mise en œuvre de ce dispositif dans le moindre village français. Donc ce serait une manière formidable de rapprocher les générations, sachant qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on va commencer plutôt par les aînés et les aînés en situation difficile.
Et soyons très clairs, ces mesures très concrètes, qui coûtent de l'argent, hein, qu'il faudrait mettre en place selon vous très rapidement, c'est pour éviter cette fameuse génération sacrifiée, la génération Covid dont on parle de plus en plus.
C'est non seulement ça, mais c'est aussi l'avenir du pays. Je veux dire, un pays, ça fonctionne avec le dynamisme de sa jeunesse, et si vous cassez ce dynamisme, vous allez, un pays peut en prendre pour plusieurs décennies, donc il faut faire très très attention. Et au fond, on est en train de repérer tout ce qui ne va pas bien dans notre société, c'est le seul mérite de cette pandémie. Il se trouve que notre formation, notre accès, notre socialisation des jeunes n'est pas parfaite, et si on veut véritablement faire quelque chose de très nouveau dans ce domaine-là.
Vous avez l'impression que c'est entendu, parce que ces mesures, pardonnez-moi, mais ça fait des décennies que l'on en parle.
Oui, mais quand vous dépensez plusieurs dizaines de milliards pour les actifs, ce qui est tout à fait bien, hein, et fait avec beaucoup de rapidité, d'efficacité, vous pouvez vous dire pourquoi on ne fait pas des choses à peu près équivalentes pour les jeunes. C'est vrai que le Covid, cette pandémie, révèle à la société française ses faiblesses. Depuis faiblesses qui sont apparues il y a peut-être quelques décennies, et au fond c'est l'aspect positif de cette terrible période, c'est de nous rendre plus lucides sur ce qu'il faut changer et de le faire avec l'ampleur. Moi, ce que j'aime bien dans la période, c'est que on n'hésite pas sur les milliards. Ben, n'hésitons pas sur les milliards pour les jeunes.
Un grand merci Jean-Hervé Lorenzi. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle des économistes, et j'en profite pour vous dire que demain, Jean Castex, le Premier ministre, sera l'invité exceptionnel d'Europe 1. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard. Ce sera à 8h15. Soyez au rendez-vous demain matin sur Europe 1. Moi, je vous dis à demain soir, 22h20.
On y sera. Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Emmanuel, que l'on retrouvera demain à partir de 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Chaque jour, un grand patron qui nous raconte comment il se réinvente pour faire face aux défis actuels. Demain, ce sera le PDG du groupe Fnac Darty, très occupé, on l'imagine, à 10 jours de Noël. Restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. Et voici donc à 22h29 ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. L'Europe met les GAFA sous surveillance, titre Les Échos, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft dans le collimateur de Bruxelles qui va créer une police pour encadrer les activités de ces géants du numérique. Les Anglais parlent aux Français, titre La Croix qui propose demain un numéro spécial Brexit. 10 personnalités britanniques expriment dans le journal leurs espoirs et leurs inquiétudes face à l'avenir. Pour nous, Français, écouter et ausculter les Britanniques se révèle souvent un exercice fascinant, écrit dans son édito Jean-Christophe Loquin, qui ajoute « Le Brexit ne doit pas être considéré comme un épisode excentrique, il est aussi le miroir des tensions qui ébranlent la France. » Du confinement au couvre-feu, l'interminable épreuve, titre en une Le Figaro, qui rapporte que le gouvernement s'inquiète de la lassitude des Français. Le Figaro Écho, cette fois, nous apprend que la redoute se lance dans la seconde main, la reboucle, c'est le nom de cette nouvelle plateforme d'échange de produits d'occasion entre particuliers. L'objectif est très clair, hein, ne plus laisser le champ libre à Vinted, le site lituanien qui est devenu en seulement quelques années l'un des 5 sites marchands les plus consultés dans l'Europe. Ne manquez pas cet événement demain sur Europe 1. Jean Castex est l'invité exceptionnel de la matinale. Le Premier ministre répondra à partir de 8h15 aux questions de Sonia Mabrouk. Et puis cette information de dernière minute qui vient de nous parvenir, Charlie Dalin, l'actuel leader du Vendée Globe, est victime d'une avarie. Son voilier a subi des dégâts au niveau de son système de foil bâbord. Le navigateur est en train de faire un état des lieux et de se concerter avec son équipe. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, ma foi, comme d'habitude, c'est le début de la semaine. Je suis donc ravi d'être assis dans mon petit fauteuil du studio Coluche. Voilà, je suis ravi de retrouver toute cette communauté de la Libre Antenne.
3921 donc pour cette communauté qui peut vous appeler et témoigner dès maintenant dans la Libre Antenne. Et moi je vous dis à dans une petite demi-heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, le 22-22-30. Julien Pierce.